et qui va raconter tout le parcours qui est unique et qui mérite d'être entendu. Fait que soyez là avec nous autres dès 19h. Sinon, ça va être disponible sur la chaîne YouTube et sur toutes nos plateformes également dans les prochaines heures. BLVD.fm et également l'application Boulevard. Aussi simple que ça. And in the end, the love you take is equal to the love you make. Hey, bonne soirée, les amis. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Ensemble, prenons soin des autres aussi. Et on se reparle demain, 7h55 dans le Pit Stop, 14h avec les demoiselles.
Bye. Salut!
Bon rolling, baby. Boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables.
Keep on rolling, baby.
Le pit stop avec Denis Gravel, 7h55. L'open mic d'Audrey Pinchot, 11h. Caucus avec Antonin Iacarini à midi. Boulevard 102, maintenant 100% parlé en semaine. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Maître Marc Bellemare, je vous souhaite officiellement un excellent lundi soir. Merci d'être là. Comment allez-vous?
Ah, ben très bien. Le lundi, on part la semaine ensemble, mon cher Yannick. Depuis longtemps, comme un vieux couple.
Ben oui, puis j'ai passé un super de beau week-end. C'était le week-end de la Saint-Valentin. J'étais tout seul, j'avais pas les enfants. Fait que, bon, je me suis pas fait l'amour à moi-même, mais je me suis gâté.
La paix, t'avais juste tes enfants, oui?
Non, j'avais pas les enfants en fin de semaine. Ça a été très tranquille, Maître Bellemare. Donc, je me suis reposé. Je pense que ça faisait 7 ans que j'avais pas eu de fin de semaine toute seule. Fait que là, ça a été une fin de semaine très relaxe. Je me suis ennuyé de mes enfants, ça doit être un bon signe.
Oui, c'est un bon signe. Puis c'est tellement beau quand ils dorment. Hein?
Ah oui, ben oui.
Là, ben, ils sont encore plus beaux des fois, fait qu'on s'en ennuie.
Oui, effectivement.
Maintenant qu'ils reviennent, c'est bien fait quand même la nature. Hein?
Effectivement.
Quelqu'un qui a pensé à ça avant nous autres.
Oui, effectivement. Maître Bellemare, passons au premier sujet de la soirée, si vous le désirez bien. Ça a été une grosse journée du côté de l'actualité. La commission Galland prenait fin. C'est finalement le rapport qu'on a eu. Le gouvernement n'aurait jamais été mis au courant avant une certaine date des dépassements de coûts dans le dossier Saclic. Sauf que le commissaire Galland dit que Geneviève Guilbeault était au courant. Le commissaire Galland, dans son rapport, mentionne que le bureau du premier ministre était au courant depuis 2023. Alors, visiblement, on tente de jouer un peu avec les communications parce que François Legault est sorti en disant « Je n'ai jamais été au courant, on nous a menti, je vais demander à mes procureurs de voir si on ne pourrait pas poursuivre les gens de la Société d'assurance automobile du Québec qui nous auraient menti. » C'est un fiasco pour la Coalition Avenir Québec, tout ce qui leur tombe sur la tête, là.
Oui, c'est ça. Puis, je comprends pas pourquoi Galland dit qu'on a menti. Alors, il nous dit pas qui vraiment a menti. C'est encore là, on est en plein no-fault. Hein? Tu sais que le no-fault, c'est le principe de base de la Société de l'assurance automobile. Je trouve que ça ressemble de plus en plus à un no-fault. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop qui. Il y a des noms qui sont mentionnés, il y a des reproches qui sont adressés, mais qui a menti? Marcellet? Est-ce que Marcellet a menti? Est-ce que Malenfant a menti? Est-ce que Guilbeault a menti? Puis s'il y a des fonctionnaires qui ont menti en manipulant des chiffres ou des données ou des documents, est-ce que des politiciens qui ont menti? Est-ce que des ministres qui ont menti? Mentir, c'est dire le contraire de la vérité. Alors, je trouve qu'il ménage beaucoup les politiciens dans son rapport.
On va écouter la...
machine, mais ouais. Il s'en prend pas des personnes de façon spécifique. Ça ressemble à quelque chose d'imprécis, non?
On va écouter la journaliste Elisabeth Laplante qui était justement au dévoilement de ce rapport-là parler de l'extrait de Mme Geneviève Guilbeault.
Exact. Bon, on parlait du politique, justement, parce que la commission conclut qu'à l'été 2023, le temps Geneviève Guilbeault et son cabinet sont informés de dépassement de coûts. On parle de dépassement de coûts à ce moment-là de plusieurs dizaines de millions de dollars, que l'information s'est également rendue en août 2023 au cabinet du premier ministre, via notamment la directrice des communications du premier ministre et un de ses conseillers politiques, des informations donc qui portaient sur la situation financière du programme. À ce moment-là, vont se rendre au cabinet concernant François Bonnardel et Éric Kerr aussi. Ce qu'on peut lire, là, c'est que eux, dès 2021, ils sont informés du montant de 682 millions de dollars, mais il y a des nuances. Ce que conclut finalement la commission, c'est que l'information qu'on leur transmettait était limitée, qu'on les rassurait également et qu'on ne leur fournissait pas l'historique finalement des coûts. On va tout de suite écouter là, un extrait de la déclaration du commissaire.
La commission en arrive à la conclusion que la direction de la SAC, à l'époque, a sciemment menti au gouvernement et aux parlementaires sur le déroulement du programme. Or, certaines personnes, donc 12e constat, certaines personnes au gouvernement ont obtenu à certains moments des informations fiables dans le déroulement du programme.
Donc, un peu comme vous dites, là, certaines personnes, il me semble qu'ils sont... Il n'y a pas de l'air très courageux sur les noms à nommer, hein?
Non, c'est ça. C'est une commission d'enquête. Alors, ce n'est pas un tribunal. Il n'est pas saisi d'une plainte ou d'une réclamation formelle monétaire, ou il n'est pas saisi d'accusation de nature criminelle. Fait que c'est ça qui est un peu plate. Au fond, moi, je vais te dire, je trouve que c'est un peu un pétard mouillé. Là, on s'y attendait, mais on a tellement suivi ça de près, les déroulements de la commission, qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Alors, on s'attendait à des conclusions. Là, il nous dit que des gens, que la direction a menti. Alors, une direction, ça ment, ça? Non. Une direction, ça ment pas. Ceux qui mentent sont les humains, les individus. Puis son rôle, c'était de dire, bien, voici, telle personne a menti et voici pourquoi. Telle personne a menti et voici pourquoi. Et mentir, ça veut dire que tu dis le contraire de la vérité sciemment. Ça veut dire que tu es conscient que tu mens. C'est pas une erreur de bonne foi. Alors là, il doit départager les erreurs de bonne foi des mensonges. Parce que tout le monde dit qu'il ne se souvenait pas. Un mal enfant dit « Ah, ben je ne me souvenais pas que j'avais eu accès à des soumissions, que j'avais le droit de le faire. » Guilbeault dit « Moi, je ne me souviens pas avoir entendu parler de ça avant le rapport de la vérificatrice générale. » Alors que c'est en juillet 2023. Ouais. C'est pas un mensonge, ça? C'est quoi, ça?
Ben, c'est ce que je voulais vous poser.
Au mois d'août 2023, il ne savait pas, son chef de cabinet non plus, alors qu'il y a des courriels clairs qui le prouvent.
Ouais.
C'est pas un mensonge, ça. Moi, j'appelle ça un mensonge.
C'est ce que je voulais vous poser, Maître Bellemare. Dans un cas comme une commission, comme cette commission-ci, une personne se présente et se fait prendre à mentir. Pourquoi on n'a pas de problème? Normalement, quand on est sous serment, on serait supposé d'avoir un problème si jamais ça s'avère qu'on a menti?
Oui, oui, c'est ça. Normalement, il devrait y avoir des accusations. Il pourrait y avoir des accusations de parjure. Il pourrait y avoir des recours civils. C'est sûr qu'il y a une sanction très claire qui va découler de ça. Et c'est déjà amorcé depuis le début des travaux de la commission, puis bien avant, c'est la sanction politique. Celle-là, on la connaît, c'est les électeurs qui vont dire encore une bonne raison pour ne pas voter pour Legault, puis sa gang d'amnésiques, là, qui ne se souviennent jamais de rien, là, puis qui ont besoin de courriels pour pouvoir se souvenir, il faut les aider. Alors, ça sent la négligence, l'insouciance à plein nez, et c'est une sanction politique. Je doute, Yannick, qu'il y ait des sanctions judiciaires. Je doute qu'il y ait des congédiements. C'est sûr que Marcellet a perdu sa job, lui, mais qu'il y ait d'autres congédiements, qu'il y ait d'autres sanctions, qu'il y ait des gens qui payent pour ça. Puis j'ai l'impression que cette commission d'enquête-là va se retrouver sur les tablettes. Puis je ne suis pas sûr qu'on va vraiment faire quelque chose avec ça, même si c'est un dépassement de coûts quand même sensible. On parle du simple au double, un milliard et plus au total. Mais sais-tu ce que ça me faisait dire, Yannick, quand je regardais tout ce cirque-là? Là, je me disais qu'au fond, il y a combien de dépassements de coûts dans le gouvernement du Québec actuellement?
Ah, il y en a probablement dans tous les dossiers.
Dans les ministères où il y a des dépassements de coûts? Parce que pourquoi on a su que Saclic avait connu un fiasco? Il y a une seule raison qui fait qu'on l'a su, Yannick, c'est parce que toi puis moi, là, on est allé au bureau de la SAC et on s'est aperçu que le système, c'était pourri. C'est pour ça que les gens l'ont su. Parce qu'en ce moment, là, Le dépassement de coût du pont de la Gaspésie, là, on n'est pas au courant. Le dépassement de coût du système informatique de tel palais de justice, là, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant de rien, alors qu'il y en a des dépassements de coûts partout. Celui-là, on l'a connu. Pourquoi? Parce qu'il nous a affectés dans notre vie quotidienne. Parce que ce n'est pas le seul dépassement de coûts. Évidemment, il n'y aura pas des commissions d'enquête pour tous les dépassements de coûts, mais simplement pour te dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on ne sait pas. Qui passe en dessous du tapis.
Mais croyez-vous que Legault songe à poursuivre les hauts dirigeants qui considèrent comme étant des menteurs ou c'est simplement pour tenter de détourner l'attention? Parce que lui, il soutient que les dirigeants de la société d'État ont menti à son gouvernement. Il dit « Je vais être très clair, le rapport de la Commission Galland démontre clairement que pendant des années, la direction de la Société d'assurance automobile du Québec a menti à notre gouvernement. » Et c'est suite justement au dévoilement du document, quand même assez lourd, là, de 800 pages. Ce qu'il dit, c'est que c'est très grave. Actuellement, l'UPAC est dans le dossier. Donc, il y a une enquête qui est en cours et il a demandé à son équipe, incluant l'équipe de fonctionnaires, de voir si les recours judiciaires qu'on peut prendre contre les dirigeants de la SAC qui ont menti à notre gouvernement. Si le rapport Galland conclut que la haute direction de la Société d'État a dissimulé l'exploit des coûts du projet aux autorités gouvernementales, force est de constater que la ministre Geneviève Guilbeault et le cabinet du premier ministre ont toutefois été informés en 2023 des dérives financières du programme. François Legault a répété, et ça c'est le journaliste qui mentionne ça, ad nauseam, que la CAQ n'avait pas été au courant, pas été mise au parfum de la facture finale du projet avant le dépôt du rapport de la vérificatrice générale ayant révélé l'information aux Québécois, et dit que jamais son gouvernement a été informé que le coût total du projet SACLIC a été révisé à 1,1 milliard de dollars. Il y a beaucoup de gens qui mentent là-dedans, là, Maître Bellemare.
Oui, mais il y a des gens qui ne voient pas clair et qui ne veulent pas voir parce que si le cabinet de Guilbeault le savait depuis juillet 2023, contrairement à ce qu'elle a dit, parce qu'elle l'a dit, je pense qu'elle l'avait appris en février 2025, quelque chose du genre, au moment du rapport du secrétaire général. Mais Legault, lui, c'est encore pire parce qu'il s'est porté à son attention au mois d'août 2023. Alors, à partir de ce moment-là, comment ça se fait qu'ils savent qu'il y a un dépassement de coûts? Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui fait venir tous ces fonctionnaires-là, qui sont des menteurs, là, les dirigeants qu'on dit, là, hein, comme si c'était une personne, et qu'on ne s'assoit pas autour de la table, qu'on ne regarde pas ce qui se passe. Parce qu'à partir du moment où le gouvernement sait qu'il y a un dépassement de coûts, puis qu'il ne sait pas jusqu'où on va se ramasser en termes financiers, sa responsabilité, c'est de s'occuper de ça. C'est 2 ans, Yannick, c'est pas 2 mois, là, c'est pas 2 semaines, là, c'est 2 ans. Ça a pris 2 ans avant que la vérificatrice générale s'en aperçoive, alors que ceux qui sont au sein même du gouvernement ne s'en sont pas aperçus. Ça n'aurait peut-être pas été un dépassement de coût de 500 millions à 1,1 milliard. Ça aurait peut-être été un dépassement de coût de 200-300 millions, mais il aurait été colmaté, ce dépassement-là, puis on aurait réussi à le contenir pour faire en sorte qu'il soit moins important, parce que là, on a laissé aller là, a laissé aller ça, puis c'est finalement la vérificatrice générale qui s'en est sortie, qui a sorti le rapport.
Oui. Un blâme, qu'est-ce que ça donne? Hein? Parce qu'on sait que Geneviève Guilbeault a été blâmée. Il y a des gens dans l'organisation de l'ex-ministre Bonnardel qui ont été blâmés. Qu'est-ce que ça donne, un blâme?
Ça ne donne rien. C'est du vent, c'est ça que je te dis. Je suis très déçu. Moi, je suis très déçu du rapport Galland, mais il faut dire que dès le début, à la nomination de M. Galland, les oppositions s'étaient unanimement opposées à sa nomination, tu te souviens, en disant, ben non, il est trop près du gouvernement, c'est chumé-chumé avec Mme Lebel, qui était à ce moment-là au Conseil du Trésor, parce qu'ils avaient été tous les deux à la Commission Charbonneau comme procureur-chef. Alors, puis au moment où Galland a été nommé juge municipal, il a invité Sonia Lebel à son assermentation. Fait que c'est pas. Moi, quand je suis assermenté et j'invite du monde, c'est pas des adversaires, c'est des gens assez proches.
Ouais.
Et puis, ça montre qu'il y avait une certaine promiscuité. Alors, les oppositions sont opposées à sa nomination, puis je trouve dans son rapport qu'il est pas mal fin avec les politiciens. Pas mal fin. Tu sais, quand il dit qu'il ne blâme pas vraiment le premier ministre, il ne blâme pas vraiment Mme Guilbeault, Bonnardel, tout ce monde-là s'en sort assez bien, puis il plante solide la direction de la SAC. Mais en quelque part, là, à partir du moment où les politiciens le savent, en juillet et août 2023, de très haut niveau du gouvernement, ministre responsable, Mme Guilbeault, puis premier ministre, puis chef de cabinet du premier ministre, à partir du moment où tout ce monde-là le sait, est-ce qu'ils ne sont pas tous responsables conjointement, solidairement, ensemble, du gâchis? À partir de l'été 2023, là, tous les problèmes qui se sont déroulés, si les politiciens ne les ont pas vus, c'est parce qu'ils n'ont pas fait leur job. Ils sont donc responsables du gâchis, à mon avis. Puis Galland ne le dit pas. Il ne blâme pas les politiciens. Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait une petite gêne du fait qu'il connaît du monde assez haut placé dans ce gouvernement-là. Il faut se souvenir que Mme Lebel, Sonia Lebel, a témoigné devant la commission. Hein.
Pour ce qui est des blâmes, à la commission Gomery, on avait sévèrement blâmé Jean Chrétien qui s'était pointé à la commission Gomery avec ses balles de golf. Là, vous devez vous en souvenir. C'était un triste cercle, un cirque à voir. Il y a plein de gens qui trouvaient ça drôle. Moi, je trouvais pas ça nécessairement drôle. Là. C'est encore une fois, on riait de l'argent des contribuables. Il y a des gens qui s'en sont mis plein les poches. Puis Jean Chrétien a fait un show avec ça. Lui avait quand même réussi à s'en sortir. Pour ce qui est du blâme, là, il avait obtenu raison, là, comme quoi il n'y avait pas à être blâmé dans ce rapport-là. Est-ce que Geneviève Guilbeault pourrait faire le même genre de choses avec
la commission Galland? Malenfant pourrait faire la même chose aussi, parce que Malenfant a été blâmé à quelques dizaines de reprises. Son nom revient plusieurs fois dans le rapport, Galland. On sent que c'est un peu la tête de Turc. Là. C'est le gars là, qui serait hautement responsable de la plupart des gâchis. C'est vrai qu'il avait une très haute fonction au niveau de la direction de la SAC, mais nommément, il n'est pas ciblé au niveau du mensonge. C'est la direction qu'on dit qu'il a menti sciemment. Inférons peut-être M. Malenfant, mais je trouve, moi, qu'on l'a traité d'une drôle de façon. D'abord, on l'a amené à témoigner après que plusieurs personnes lui ont incriminé. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais il y a beaucoup de gens qui avaient, avant lui, qui avaient témoigné pour donner l'impression que Malenfant était un peu le haut responsable de tout ça. Et on a mis la table, comme on dit, parce que tous ceux qui sont venus témoigner avant lui se sont disculpés et ont mis la table pour M. Malenfant. Fait que quand il est arrivé pour témoigner, tout le monde le voyait, les journalistes aussi, comme étant le monstre auquel il fallait s'attaquer. On a mis beaucoup de pression sur lui. On a traité son avocat, Jean-François Bertrand, de façon assez cavalière. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut parler de partialité de la part du commissaire Galland dans cette affaire-là, dans le sens qu'il y avait comme un préjugé défavorable à Malenfant au départ? Parce que dans l'affaire Gomery, le juge Gomery, qui était commissaire à l'époque, dans l'affaire des commandites, je pense que c'est en 2004, il y avait plusieurs dizaines de millions de dollars qui avaient été dépensés sur les commandites là, fédérales dans le temps du référendum. Et M. Chrétien avait été ciblé, et Jean Pelletier, qui est l'ex-maire de Québec, qui était son chef de cabinet, avait été ciblé par des propos qui avaient été tenus par le juge Gomery quelque part en 2004, je pense. Quand Chrétien avait témoigné. Il avait émis des doutes publiquement sur ce que Chrétien avait dit, même s'il y avait des documents qui prouvaient le contraire. En tout cas, peu importe. On s'est retrouvé avec le juge Gomery qui a fait un rapport en 2008 et qui a été attaqué dans son rapport. C'est en 2008 que le jugement est sorti, Cour fédérale d'appel, qui ont scrappé des conclusions complètes du rapport Gomery qui touchaient M. Chrétien et M. Pelletier. Compte tenu de la partialité dont avait fait preuve le juge Gomery dans certains propos publics. Alors, ça pourrait être un précédent qui pourrait permettre à Malenfant, je ne dis pas qu'il va le faire, j'en ai aucune idée, je ne le connais pas, je n'y ai jamais parlé, mais peut-être que Malenfant, qui est un peu mis à mal dans ce rapport-là, pourrait invoquer la partialité du commissaire par rapport à lui pour essayer d'obtenir que certains extraits des conclusions du rapport soient annulés. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des recours et il y a des précédents parce qu'il y a des jugements de cour qui sont venus annuler des conclusions de commissaires enquêteurs par le passé, dont celui-là.
En fin de semaine, Charles Milliard a été consacré chef du Parti libéral du Québec. Je lui ai parlé ce matin. Il était en grande forme. C'est un discours de quand même 40-45 minutes qu'il a livré hier devant plus de 600 personnes qui étaient toutes réunies à Trois-Rivières. On a fait les choses en grand. Philippe Couillard qui était là, Daniel Johnson qui était là, Jean Charest aussi qui était là par vidéo. Est-ce que vous avez écouté son allocution?
Non, je n'ai pas écouté ça, mais Charest en vidéo, quoi, c'est quoi, là? Comment ça se fait qu'il n'est pas là?
Je ne sais pas.
C'est quand même le dernier premier. Ben non, il y a eu Couillard après, mais spécial. Tu sais, je comprends les vidéos aujourd'hui. On en fait du vidéo, toi puis moi, là, mais ouais. Est-ce que c'est toutes les semaines? Puis, mais c'est quand même un discours important. C'est le premier discours qui est prononcé comme nouveau chef du Parti libéral. M. Couillard était là, M. Johnson était là. C'est bon, il y avait quand même 600 personnes à Trois-Rivières. C'est pas rien, c'est quand même une belle foule. Sur le contenu, bien, on sait qu'il veut 100 000 logements. Bourassa disait 100 000 emplois, lui, il veut 100 000 logements. Donc, on commence à avoir certaines précisions sur son mandat. Il veut regarder au niveau de l'immigration aussi, mais Bernard Drinville l'a invité à préciser sa pensée sur la question de l'immigration. J'imagine qu'il va devoir le faire, mais sur les côtés, les points sensibles, l'immigration, la langue française, la laïcité, j'ai hâte de voir comment M. Milliard va se positionner par rapport à ça, parce que c'est vraiment des zones sensibles sur lesquelles il peut difficilement attaquer le gouvernement de la CAQ, parce que c'est à peu près le seul point sur lequel la coalition Avenir Québec a la cote de la population, la laïcité et la langue actuellement. Est-ce qu'il va épouser ces propositions-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais j'ai hâte qu'il se prononce, parce que oui, il y avait, on a progressé un petit peu dans le contenu, dans ce lancement-là à Trois-Rivières en fin de semaine, mais il y a encore beaucoup de choses à dire, puis le temps presse. Là. On est déjà rendu à la mi-février. Je te le dis, à partir du moment où le beau temps poigne, là, à mi-mai, là, oublie ça, les politiciens ne les écoutent plus, ça va aller en septembre.
Mais est-ce qu'il pourrait créer des surprises? C'est un gars qui est du milieu des affaires, qui avait un déficit au niveau de la popularité. Personne ne le connaissait. Puis dans les derniers sondages, on s'aperçoit que personne ne le connaît. Donc, faut qu'il aille chercher le monde très, très, très rapidement. Faut qu'il aille chercher les régions, parce que le Parti libéral du Québec, c'est pas mal juste Montréalais, là, actuellement. Lui doit... il y a une tâche énorme actuellement pour tenter de conquérir le cœur des Québécois qui ne le connaissent pas. Puis les derniers sondages, je pense que c'est les sondages légers de la semaine dernière, le mettaient à 26 % dans les intentions de vote alors qu'il n'était pas encore en place. Fait que, est-ce que ça va descendre avec un Charles Milliard là ou ça va augmenter? On a le Parti québécois qui est à 32 %. La coalition Avenir Québec qui est encore dans la cave, mais à partir du moment où Christine Fréchette arrive comme première ministre du Québec, ben visiblement, elle gagnerait du terrain pour ce qui est des intentions de vote. Est-ce que Charles Milliard pourrait créer une surprise?
Oui, bien, on ne sait pas comment il réagirait quand ça chauffe. On ne l'a pas vu beaucoup dans l'action. Les débats qui ont eu lieu avec les autres candidats à la chefferie quand Pablo Rodriguez a été élu, était relativement insipide. Hein? Tu te souviens, là, il y a une petite tape sur l'épaule, puis il n'y avait pas grand monde qui s'ostinait, même que tout le monde trouvait que c'était pas mal drabe, là, puis qu'on n'a pas appris grand-chose dans ces débats-là. Une fois Rodriguez parti, il n'y a pas de campagne à la chefferie pour lui, donc il est un peu élu par acclamation. Il est intronisé, sans débat. Il n'est pas à l'Assemblée nationale, il n'a jamais été député. Encore moins membre d'un gouvernement. Là, on a hâte de voir comment il va se débrouiller dans Fournaise. Là. Est-ce qu'il va chercher à être élu plus rapidement? C'est sûr que d'ici octobre, ça m'étonnerait qu'il puisse être élu. Il y avait Chicoutimi, mais là, il n'ira pas à Chicoutimi. L'élection partielle, je ne pense pas qu'il y en ait. Donc, il va rester en dehors du Parlement, ce qui va lui enlever beaucoup de visibilité. La chefferie de la coalition Avenir Québec va prendre beaucoup de place dans l'actualité aussi d'ici au mois d'avril. Il faut qu'il y ait des micros, puis il faut qu'il s'exprime, faut qu'il arrive avec quelque chose de gros pour pouvoir attirer l'attention, quelque chose de courageux, quelque chose de solide, populaire et gros. C'est tout un défi, Yannick. Je ne sais pas comment il va faire ça. Je suis assis sur le bout de ma chaise, puis j'attends qu'il ouvre la bouche puis qu'il parle. Mais comment il va se débrouiller dans une certaine controverse si jamais il arrive avec une idée qui n'est pas très populaire? Je ne sais pas, peut-être qu'il va avoir de la misère à patiner pour nous faire accepter ça. Là.
Parce qu'il y a des enquêtes actuellement sur le Parti libéral du Québec. Sa force, c'est qu'il n'était pas là au moment où ça s'est passé. Donc, il va devoir accepter les résultats de ces enquêtes-là. Dans son discours, il mentionnait que sous son leadership, c'est maintenant l'intégrité, la transparence et l'imputabilité qui vont être le mot d'ordre. Je trouve que c'est des beaux mots. J'espère juste qu'il va être capable de mettre ça en place, puis qu'à partir du moment où quelqu'un sera passera un peu de travers, ben, il va lui montrer la porte très rapidement pour faire un exemple pour les autres. Pourquoi il ne réintègre pas rapidement Marois Risky? Parce que ça fait quelques fois que je lui parle à Charles Milliard. J'ai parlé dans mon émission le matin, j'ai parlé dans Marceau Soir. Et il n'a que de bons mots pour Marois Risky. Elle semble avoir été très transparente. Elle a été par le bon chemin pour pouvoir se faire entendre, Marois Risky. Et là, ben, il dit « c'est moi qui vais mener le bateau, c'est moi le capitaine, mais je vais attendre de consulter mon équipe avant de savoir si Marois Risky va revenir dans l'aventure ». Il me semble que ça aurait été un beau geste, ça, à démontrer aux Québécois.
C'est un exemple de geste courageux dans sa propre formation. Tu sais, il arrive comme chef, il dirait, parce qu'il ne l'a pas encore dit, il dirait « je vais intégrer Mme Risky dans mon équipe, j'ai pris cette décision-là comme chef ». C'est une parlementaire redoutable, c'est une politicienne populaire, c'est une femme aimée, jeune, qui est une excellente communicatrice. Bienvenue dans le club, tu rentres, c'est tout, c'est moi qui décide, c'est lui le chef. Mais là, il consulte.
Exact.
C'est quoi ça, faire là? Consulter son équipe. Là, il cherche l'unanimité, il ne l'aura jamais.
Voulez-vous que je vous la dise, la patente? Voulez-vous que je vous la dise, la patente? Parce que moi, à l'interne, là, j'ai des contacts à l'interne au Parti libéral du Québec. Puis il l'aime pas, Marois Risky. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle le préférait être transparente, elle le préférait être honnête, puis elle a mal fait paraître son parti libéral. Donc les gens l'aiment pas. Pas parce qu'elle est honnête, ils l'aiment pas parce qu'elle a mal fait paraître le parti libéral, puis elle a pensé à la droiture avant l'équipe. Et ça les a fait suer. C'est pour ça qu'ils veulent pas l'avoir, Marois Risky.
C'est ça, c'est là que je te dis qu'il y a un problème avec son parti.
Ben
parce
oui.
qu'il arrive en parlant d'intégrité. Miss Intégrité, numéro un, c'est Mme Risky. Elle a plein de qualités. Les élections sont demain matin. Puis là, il va consulter son équipe. Moi, j'appelle ça du niaisage. Il est chef du parti. Prends des décisions, ramène-la. Puis là, ça va chialer pendant 3-4 jours. Puis après ça, ça ne chialera plus. Parce qu'elle va commencer à faire des bons coups. Elle va commencer à parler aux journalistes. Elle va commencer à amener des nouvelles idées. Elle va commencer à communiquer ces informations-là. Puis elle est élue, elle est députée. Elle est députée à l'Assemblée nationale, ce que M. Milliard n'est pas.
Exact.
Fait que son meilleur poteau à l'Assemblée nationale, c'est qui? C'est évidemment, bien, il y a Fortin, mais il y a Mme Risky, je pense, qui se démarque nettement de tous les autres. Je trouve que c'est une des meilleures parlementaires qu'on a parmi les 125 députés. Il va s'en priver parce qu'il va consulter sa gang. Moi, tu dis ça quand les élections sont dans 2 ans. Mais là, c'est demain matin, là. C'est quoi ce niaisage-là? Parce que moi, je pense qu'il ne la réintégrera pas parce qu'il a peur de faire de la vague dans son parti. Mais c'est le signe, à mon avis, d'un leader qui manque de couilles puis qui manque d'aplomb. Alors, il va payer pour ça en termes de notoriété, puis il va se priver d'une excellente parlementaire parce qu'elle va être candidate à la prochaine élection, là. Non? As-tu dit qu'elle ne sera pas?
Elle ne sera pas candidate. Elle va se consacrer à sa famille pour quelques années. Moi, je la vois comme première ministre du Québec. Là.
Je sais qu'elle avait dit qu'elle ne serait pas chef là, ou qu'elle ne serait pas candidate, mais si elle n'est pas députée. Mais au moins, elle pourrait l'être jusqu'en octobre.
Oui.
Écoute, moi, je trouve que c'est un manque de leadership. S'il y a vraiment du leadership, il devrait rapidement le dire et l'intégrer dans son parti pour profiter là, des derniers mois de session. Puis marquer le point pour le Parti libéral, parce que c'est une bonne cote. Il y a des gens qui voteraient libéral parce que Mme Risky est là.
Exact. Autre dossier, M. Bellemare, quand est-ce qu'un politicien, ça bâtit des maisons? Je comprends pas. J'entends tout le temps, que ce soit à Montréal ou au Québec, ou encore quand c'est le premier ministre du Québec, eux autres, dans leur tête, ils font des mises en chantier, là. C'est dans leur tête, j'ai encore entendu ça en fin de semaine. Charles Milliard, il veut faire 100 000 mises en chantier. C'est pas vous autres qui bâtissez des maisons. C'est pas vous autres qui faites des chantiers. C'est les gars puis les filles qui sont entrepreneurs, qui travaillent extrêmement fort. Tout ce que ces gens-là demandent, les hommes et les femmes d'affaires qui peuvent en faire des maisons, c'est de tasser les fonctionnaires qui vont pas assez rapidement pour pouvoir faire accepter leur projet. Ils vont être capables d'en bâtir des maisons puis des édifices, puis en veux-tu, en
oui, oui, je voyais en fin de semaine à Québec, sur la rue Marais, là, il y a un projet intéressant qui est en train de se tramer. Je pense que ça fait 6-7 ans que le gars travaille fort pour obtenir un permis de la Ville de Québec. Moi, ça me fait suer. Écoute, je te dis, ça n'a pas de bon sens. Et d'ailleurs, Pierre Poilievre avait soulevé, je ne sais pas si tu te souviens, il y a 2 ans à peu près, il avait dénoncé et il avait utilisé le terme d'incompétent pour Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal, et pour Bruno Marchand, maire de Québec, en disant que ces maires-là étaient incompétents parce que les mises en chantier avaient connu une baisse significative dans leur ville, alors qu'à Baie-Saint-Paul, à Trois-Rivières, il y avait une hausse significative des mises en chantier parce que dans ces villes-là, il y a moins de paperasse, il y a moins de niveaux, il y a moins de fonctionnaires. Alors, je pense que le principal problème pour les mises en chantier, c'est précisément les très nombreux obstacles administratifs, permis, la corniche, la couleur de la brique, le nombre de parkings, le gazon, et ça finit plus. Et là, c'est un département puis un autre. Puis finalement, les entrepreneurs s'écœurent, puis ils vont investir dans des villes où c'est moins lourd. Parce que Québec-Montréal, c'est quand même des grosses bureaucraties. Et ça va répiler à peu près n'importe quel constructeur.
William Trudel, qui est un gros entrepreneur dans le secteur de Québec, avait dit, si je me trompe pas, je pense que c'était à TVA, avait dit « Si mes négociations avec la ville actuellement, c'était un peu comme la Maison des fous, ça ferait mon affaire. » Ça, ça voulait dire que c'était encore pire que la Maison des fous quand tu négocies avec la ville. Puis, je vais dire la vérité, quelques mois plus tard, suite à la sortie de Pierre Poilievre, puis suite à son entrevue à TVA, il m'avait mentionné, il avait dit « Yann, depuis ces événements-là, les fonctionnaires travaillent beaucoup plus vite à la ville pour l'octroi des permis. »
Oui, Pierre Poilievre. Moi, j'avais écrit un texte pour dire « Poilievre a raison ». Et j'étais content qu'un politicien ait le courage de dire que ces maires-là sont des incompétents en termes de mise en chantier résidentiel, Bruno Marchand et Valérie Plante. Et c'est certain que ça a changé. Ils ne viendront jamais le dire publiquement. On a été sonnés, on n'a pas aimé ça. Mais j'ai l'impression que ça donne un coup, surtout qu'à ce moment-là, Pierre Poilievre avait un avance de 20 points sur Justin Trudeau dans les sondages. Alors, il était pressenti comme étant l'éventuel premier ministre du Canada. Fait que même si on ne l'aime pas, et même si ces deux maires-là ne l'aiment pas, puis ont dit puis ont bougonné un peu dans le coin, il reste que ça a probablement contribué à donner, comme disait le bonhomme, le coup de pied dans la ruche. Hein. Le coup de pied dans la ruche, des fois, ça fait du bien, ouais. Mais là. On en a moins que pied dans la ruche de ça. Là, ils ont toute peur, les politiciens.
Oui, mais cette idée-là des politiciens de croire qu'ils bâtissent des affaires, là, non, on vous demande juste de gérer nos poubelles. Là. On vous demande pas de bâtir des immeubles à logement. Octroyez les permis quand c'est possible de le faire, puis donnez-le-les rapidement pour qu'on puisse avancer. Ça, c'est faire avancer le Québec, c'est ça. Pas des promesses en l'air de « je vais bâtir 10 000 logements, 20 000 logements ». C'est pas toi qui bâtis. Laisse le monde qui bâtisse bâtir, puis toi, fais tes affaires. D'autres promesses de Charles Milliard en santé, il s'engage à augmenter sensiblement l'offre de soins à domicile. Donc, ce qu'il veut, c'est faire de la santé mentale une priorité nationale. En éducation, il promet de tenir des états généraux sur l'éducation pour revoir le système au complet du préscolaire à l'université, en passant par la formation professionnelle et le cégep. Sur le front économique, il souhaite, ça c'est intéressant, réduire le fardeau fiscal des PME et faire du Québec un chef de file en matière d'innovation verte et de mobilité durable. Il veut remettre de l'ordre dans les finances publiques qui sont actuellement plongées dans le rouge. Si on parle de paradis fiscaux, Maître Bellemare, c'est parce que des enfers fiscaux, ça existe. Puis quand on parle avec des hommes et des femmes d'affaires du Québec et du Canada, c'est complexe, la fiscalité au Québec et au Canada. Ça coûte cher. Fait que si jamais un jour Milliard devient chef du Parti libéral du Québec et premier ministre du Québec par le fait même, ben il pourra mettre ça en place. S'il est opportun, s'il est porté au pouvoir, Maître Bellemare, il entend aussi, en tant que premier ministre, faire de la décentralisation au Québec. Donc, il veut donner au monde municipal et aux régions les leviers pour agir sur ce qu'ils connaissent mieux que quiconque, comme l'itinérance, l'intégration, les infrastructures, la qualité de vie de nos communautés. Et ce que je lui ai demandé ce matin en entrevue, Maître Bellemare, j'aurais aimé ça avoir un extrait à vous présenter, mais je lui ai juste dit, les gens de Québec décident jamais ce qui est bon ou pas pour les gens de Montréal, et l'inverse devrait être aussi vrai. Si les gens de Québec veulent un troisième lien en majorité, ben c'est pas vrai que c'est deux, trois têtes pensantes à Montréal qui vont nous donner le droit, oui ou non, de faire ce pont-là, au même titre que quelqu'un qui est des gens qui sont à Sept-Îles ou des gens qui sont au Saguenay, qui ont besoin d'infrastructures. C'est pas à Québec ou à Montréal de décider.
Oui, c'est ça, parce qu'il sent, il veut se rapprocher des régions, il veut sortir de Montréal parce qu'il prend Montréal pour acquis, puis il a un peu raison, parce que sa députation vient presque toute de Montréal. Je pense pas qu'il perde beaucoup de comtés à Montréal. Fait qu'il faut qu'il aille chercher d'autres comtés à l'extérieur de Montréal. Peut-être que l'idée, parce qu'il s'est prononcé en faveur, là, ça c'est quand même quelque chose de surprenant. pour le troisième lien. Maintenant, ça va prendre quelle forme, je ne sais pas, mais quand même, il doit arriver avec des propositions qui vont plaire à l'extérieur de Montréal. Décentralisation, c'est bon, mais je trouve que c'est encore assez vague. Les états généraux en éducation, je comprends, mais avez-vous quelque chose de précis à nous dire? Les états généraux sur une proposition concrète, je ne sais pas, moi, le nombre de les employés, tout le personnel d'encadrement pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, le cégep, est-ce qu'on garde ça? Est-ce qu'on diminue le nombre d'années ou le nombre de jours d'école? Est-ce qu'on augmente le nombre de jours d'école? Comment on recrute les professeurs parce qu'on sait qu'on a de la difficulté à recruter les professeurs. Comment fonctionnent les centres de services scolaires qui étaient les commissions scolaires autrefois, qui ne sont pas élus cette fois-ci. Mais je ne sais pas, y a-t-il quelque chose de concret à apporter? Le ministère de l'Éducation, je pense que c'est le deuxième plus gros ministère après la santé. Y a-t-il quelque chose de concret, une idée, un point précis? Où M. Milliard dirait, nous, on va faire ça pour que Ticoun, là, dans sa cuisine, là, il comprenne facilement ce qu'il veut dire. Parce que les électeurs, ce n'est pas tous des scientifiques, puis ce n'est pas des gens qui sont dans la grosse dissertation. Ça prend des idées concrètes. Je voyais en fin de semaine un monsieur là, qui n'en peut plus d'attendre pour sa prothèse du genou, puis qui va mettre 25 000 $ dans la poche d'un orthopédiste au privé à Montréal. Alors, M. Milliard, qu'avez-vous à dire à ce gars qui va mettre 25 000 $ dans une nouvelle prothèse du genou? Qu'avez-vous à dire à lui? Qu'avez-vous à dire à tous ceux qui vont suivre puis qui seraient portés à mettre 25 000, puis même dans certains cas à s'endetter pour avoir une prothèse du genou? C'est ça la grande question.
Ouais.
Tu sais, de dire on va favoriser les soins à domicile, la santé mentale une priorité. J'ai l'impression que c'est déjà le cas. J'ai l'impression que ça a déjà été entendu à plusieurs niveaux. Puis les baisses d'impôts, le dernier Conseil national du Parti québécois qui s'est tenu à Saint-Georges-de-Beauce, si je me souviens bien, ça fait 3 semaines, Saint-Pierre Plamondon a dit qu'il allait diminuer les impôts pour les entrepreneurs. Est-ce que je me trompe? Il me semble que ça fait 3 semaines de ça.
Oui, bien, Paul Saint-Pierre Plamondon s'est découvert une droite économique. Là. Est-ce qu'on n'entendait pas de lui il y a de ça quelques semaines? Parce que là, on dirait que la fenêtre d'Overton s'est déplacée. Et là, dire qu'on est de droite économique, c'est plus rendu diabolique. Donc, tout le monde commence à être de droite économique. Même Bernard Drainville commence à dire qu'il est rendu de droite économique en raison de la fenêtre d'Overton qui se déplace, qui fait en sorte que dire que tu es de droite économique, c'est plus considéré comme négatif. Possiblement que Paul Saint-Pierre Plamondon a mentionné ça. Mais Maître Bellemare, comment un homme qui a travaillé toute sa vie, qui a payé des impôts toute sa vie, se ramasse à 76 ans, il a besoin d'une chirurgie, puis là, ben sa vie est un enfer, puis on le met sur des listes d'attente à n'en plus finir. Il est obligé de sortir de l'argent de ses poches, de l'argent qu'il a eu, puis on avait enlevé l'impôt sur cet argent-là, là, qu'il doit payer pour aller au privé, pour arrêter...
Ça veut dire qu'il a gagné peut-être 50 000 ou 45 000 pour avoir 25 000 clairs dans ses poches.
Exact. Il disait, à chaque fois que je marche, ça fait mal. À chaque pas que je fais, ça fait mal. Quand je suis assis à la maison, c'est le seul moment où je suis bien. Mais il veut pas. Il a 76 ans. Il est en fin de vie. Il veut pas rester assis, là.
Oui, je comprends. Puis... Lui, je ne sais pas, ce monsieur-là, 76 ans, il n'est probablement pas soutenu par un régime public d'indemnisation. Mais moi, j'ai beaucoup de clients au bureau parce que je fais beaucoup de cas de CNSST puis d'assurance automobile. Des gens qui sont en attente de chirurgie puis qui ne sont pas capables d'être opérés puis dont l'indemnisation se prolonge. Fait qu'il y a des coûts sociaux importants aussi pour le Québec à ça, là, Yannick. Lui, il va payer de sa poche, mais toi puis moi, on paye aussi à travers... la CNSST,
ouais,
qui n'accepte pas les chirurgiens privés.
Imaginez-vous tous ces gens. Imaginez-vous tous ces gens-là qui attendent des chirurgies puis qui attendent de retourner à job. Ces gens-là payent pas d'impôts pendant qu'ils sont pas là. Ils sont à la maison. Là. Ils coûtent cher à la société à la maison. C'est 33 000 Québécois qui sont présentement qui attendent présentement pour une chirurgie orthopédique au Québec. Et ce qu'on nous dit, c'est que le délai dépasse souvent un an.
Oui, puis ces Québécois-là, ben, ils n'ont pas 20 ans, ils n'ont pas 25 ans. Ce sont des Québécois qui sont probablement dans la quarantaine ou la cinquantaine, ou peut-être même la soixantaine. Des gens qui sont privés de travailler, ça peut être des gestionnaires, ça peut être des intermédiaires, ça peut être des gens qui dirigent des entreprises, des gens qui ont de l'expérience, des gens qui sont précieux dans des organisations. Tu sais, un contremaître de 52 ans là, qui attend pour une chirurgie de la hanche, là, c'est une grosse perte pour son entreprise aussi. Perte de productivité,
exact.
Perte de savoir, perte d'expérience, perte d'expertise. Alors, mais c'est parce qu'on a un système de santé qui ne fonctionne pas et qui engloutit quoi, 60 milliards par année, à peu près un milliard par semaine.
En fait, c'est plus d'un milliard par semaine. Là. C'est plus d'un
Quand
milliard
tu vois ça, tu vois que le système de santé, ça ne marche pas. Là. Alors, c'est ça. Monsieur Milliard, il faut qu'il s'adresse à ces gens-là. Il faut qu'il dise, voici monsieur, là, vous ne paierez pas 25 000. On va trouver une solution. Mais il faut qu'il trouve la solution. Il faut qu'il arrive avec quelque chose qui soit facile à comprendre, qui soit applicable, qui soit économique. Et c'est ça le défi. On a l'impression que le Québec est comme jamais dans un immense modèle, puis on ne peut à peu près pas bouger rien. Puis on l'a vu quand la CAQ s'est cassée les dents avec les médecins spécialistes, les médecins de famille. La CAQ se casse les dents avec les infirmières quand ils négocient, la FIC, les enseignants. On a l'impression qu'on n'est jamais. Et quand les politiciens arrivent en disant « nous, on va faire du changement, on va arriver avec des nouvelles idées », on a l'impression qu'ils ont de plus en plus de difficultés à en trouver parce que le système est jamais. Et M. Milliard, il arrive, il va vivre cette difficulté-là comme tous les autres. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Je pense que c'est un homme sympathique. Je pense que c'est un homme gentil. Mais il va falloir, comme je te dis, qu'il arrive avec quelque chose de solide. Puis avec Mme Risky qui n'est pas intégrée, je trouve que c'est il part avec une demi-roue en moins.
Oui. Gracieuseté du Journal de Montréal, je l'ai la liste d'attente là, pour ce qui est des patients qui sont en attente d'une chirurgie orthopédique depuis plus d'un an. À Montréal, Maître Bellemare, il y en a 306. Dans Lanaudière, 210, Montérégie, 183, Chaudière-Appalaches, 131. Ça, c'est des gens que ça fait plus d'un an qu'ils attendent là, pour leur chirurgie. Capitale-Nationale, 80, Laval, 21. Fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont sur les listes d'attente depuis plus d'un an. Ça fait un an que tu n'as pas travaillé. Là. Tu dois trouver le temps long en tabarouette.
Oui, puis quand l'orthopédiste te dit, je te mets Arthur, Ernest, Jean-Claude, Nathalie, je te mets sur une liste opératoire. Le jour, parce qu'on dit un an d'attente, là, mais le jour où l'orthopédiste te dit je te mets sur une liste opératoire, ce jour-là, ça fait déjà des mois, des années que tu attends pour le voir. Parce que ça prend un an et demi en moyenne pour voir un spécialiste en orthopédie actuellement au Québec. Alors, au public. Alors, le gars, il attend puis il souffre depuis ce temps-là. On dit un délai d'attente sur une liste opératoire. Mais avant d'arriver sur la liste opératoire, il faut que tu arrives dans le bureau du médecin, ce qui est quand même un chemin de croix. Après ça, il faut que le médecin te voie une couple de fois, résonance magnétique, électromyogramme, radiographie, peut-être essayer un peu de physio pour voir si ça ne réglera pas une partie du problème. Alors, avant d'arriver sur une liste opératoire, il y a tout un parcours. Ce qui fait que ces gens-là, souvent, c'est 30, 40 mois d'attente en réalité entre le moment où la souffrance a commencé à les rendre dysfonctionnels et le moment où ils vont passer sur le bistouri.
Puis, Maître Bellemare, je sais que vous faites souvent des textes d'opinion, là, puis vous les faites paraître dans les journaux. Là. Pourriez-vous faire un texte d'opinion sur le mot « patient » puis changer le mot « patient » dans le vocabulaire des Québécois pour crissement écœuré d'attendre après le système de santé constamment? Les écœurer plutôt que les patients, parce qu'il n'y en a plus de patience, Maître Bellemare. Ils devraient remplacer ça par écœuré ou encore par malade, mais des patients, je suis plus capable. Écœuré, patient, je préfère écœuré. Écœuré, malade, les deux sont quand même pas pires, mais peut-être client. Ah, il y a des milliers de clients qui sont en attente, puis il faudrait qu'ils nous voient comme ça. Aussi, ce serait pas pire, plutôt que de « Ah non, mais son patient, il attend dans la salle d'attente. Ça fait 7 heures qu'il attend dans la salle d'attente. » Puis là, ben là, l'infirmière au tri, il a dit d'aller dans une clinique sans rendez-vous. Mais ce qu'il a dit à l'infirmière, c'est que dans une clinique sans rendez-vous, il faut prendre rendez-vous le matin à 5 heures du matin à la clinique sans rendez-vous. Il n'y a plus de clinique sans rendez-vous, ça n'existe plus. Mais il s'appelle encore de même les cliniques sans rendez-vous. C'est un monde de fous. On vit dans un monde de fous. Maître Bellemare de chez bellemareavocat.ca pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNSST. C'est lui qu'on doit contacter. On fait une courte pause, Maître Bellemare, et on vient tout de suite.
Marceau, le soir. Le segment que personne ne veut manquer le matin. Le Pit Stop de 7h55 avec Gravel et Marceau.
Il n'y a pas une époque qui est parfaite et même Radio-Canada tombe dans le piège. Là, ça prend des fous. Il faut les piger dans le bac à fous. Il faut sortir ce qu'il y a de plus exagéré, de plus extrémiste, puis faut faire semblant que c'est ça le way to go en 2026. Non merci pour moi. J'essaye d'aller de l'autre bord, je sais pas, d'avoir une conversation intelligente entre gens qui voient pas la vie de la même façon, mais qui sont pas dans les extrêmes. Ben quand je vais perdre ma job, je serai pas nécessairement déçu, je vais me dire, ben au moins j'ai essayé de tirer à couverte du bonbon. L'extrême centre.
Vive l'extrême centre.
Vive, vive l'extrême centre. Yes! Ouais! Boulevard 102.1, l'extrême centre, c'est nous autres.
Le petit top de Boulevard 102.1, lundi au jeudi, 7h45. Il y a un an, à la classique annuelle Boulevard du Centre de glace Intact Assurance, les Icemen de Saint-Isidore débarquaient d'un autobus scolaire en pantoufles de Fentex pour affronter l'équipe Boulevard 102.1.
Ouais, pis si tout le monde de Boulevard avait aussi bien joué que moi, on aurait gagné, hein?
Vous voulez affronter l'équipe Boulevard le 19 mars prochain au Centre de glace Intact Assurance?
Rendez-vous au blvd.fm pour inscrire votre gang de hockey avant le 27 février.
Et cette année, chaque joueur recevra un nouveau chandail d'équipe avec leur logo offert par Nagano.
Si vos tirs sont presque autant précis que Connor McDavid, c'est le moment de vous faire acclamer et d'entrer dans la légende Boulevard!
Le tournoi Pee-Wee de Québec est de retour du 11 au 22 février au Centre Vidéotron. Venez encourager des équipes Pee-Wee de partout sur la planète. Pee-Wee, tu veux être là?
Tanné de vos escaliers défraîchis, tapis usés au bois jauni qui datent d'une autre époque? Chez Escalier Solutions Design, on vous propose une alternative esthétique, durable et économique. Un recouvrement en vinyle clic européen de haute qualité garantie 35 ans. Escalier Solutions Design.
La toute nouvelle Crosstrek 2026 est enfin en stock chez Lévis Subaru. Le VUS le plus populaire et le plus abordable pour toutes vos aventures. Polyvalente, fiable et prête à vous suivre partout. Pour votre prochain Subaru, une seule destination s'impose.
LévisSubaru.com. Du 10 au 12 septembre, en collaboration avec Molson Export, c'est le festival Envolé Macadam. Bad Religion, Satanic Surfers, Les Ghouls, Hatebreed et plus de 30 bandes qui se produiront au centre-ville de Québec et à l'Agora du Port de Québec. Le festival Envolé Macadam du 10 au 12 septembre. Une présentation Boulevard 102.1 de la Ville de Québec et du gouvernement du Québec. Billets en vente maintenant sur envolemacadam.com.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Pendant que vous fêtez les 2 ans de Charlotte avec toute votre famille, l'AMF veille. Pendant que vous pédalez comme un forcené sur votre vélo stationnaire pour retrouver votre forme d'antan, l'AMF veille. Pendant que vous regardez en rafale votre série préférée, l'AMF veille sur vos dépôts en les protégeant au cas où une institution financière provinciale ferait faillite. Continuez de profiter de la vie. L'AMF veille. Pour en savoir plus, consultez l'autorite.qc.ca. Un message de l'Autorité des marchés financiers.
Pourquoi choisir quand on peut tout avoir? Chez Iris, profitez de 25% de rabais sur les lentilles de votre première paire. Et parce qu'une seule paire ne suffit jamais, obtenez 50% de rabais sur les lentilles de votre deuxième paire. Une paire pour le travail, une paire pour le style, une paire pour le soleil. Même prescription, même vous. Plus de style. Faites vite, l'offre se termine le 1er mars. Visitez iris.ca pour tous les détails. Iris, vision d'exception, style remarquable. Dr. Jaël Saint-Jacques, optométriste.
Chez Logisco, notre engagement est d'offrir des appartements où les gens se sentent bien.
My God, mon amour, t'as pas l'air bien.
Je peux bien faire tout. Je pense que j'ai pogné.
Que t'as pogné quoi?
La gastro!
Ben là, ça veut dire que je l'ai pogné moi aussi?
Tout va bien aller. Logisco.
Je peux pas aller au bureau, moi.
Plus de 6 000 appartements à Québec.
Chez Laval Volkswagen, c'est le moment parfait de partir en Taos. Un VUS compact, moderne, spacieux, confortable et idéal pour affronter l'hiver avec style. En ce moment, profitez du Volkswagen Taos 2026 à partir de seulement $110,65 par semaine sur 51 mois à 2,99%. Venez l'essayer dès aujourd'hui et découvrez pourquoi le Taos est l'un des choix préférés des conducteurs d'ici. Laval Volkswagen, sans flafla depuis 1968.
Pour une relâche magique en famille, plongez dans l'univers fantastique de Beefly. Découvrez des papillons aux couleurs éclatantes provenant des quatre coins du monde. Poursuivez l'aventure avec notre mini-golf fluo 3D et osez traverser notre labyrinthe de miroirs où illusions et réalité se confondent. Une sortie inoubliable aux Galeries de la Capitale. Faites vite, Beefly fermera ses portes le 16 mars 2026. Réservez maintenant au beefly.ca, BFLY.ca.
L'attente est enfin terminée. Les concessionnaires BRP Skidoo, Adrenaline Sport Québec, Adrenaline Sport Lévis, Dion Sport et Bernier Sport vous invitent à découvrir les tout nouveaux modèles Skidoo 2027. Ça se passe le 19 février à la tournée du printemps Skidoo au centre de foire Exposité. Venez voir votre futur motoneige de près. Comparez les modèles, obtenez des réponses à vos questions sur les nouveautés Skidoo et Lynx et précommandez votre motoneige pour l'an prochain. Le 19 février au centre de foire Exposité. Entrée et stationnement gratuits.
Boulevard 102.1.
De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien, vous allez le savoir aussi.
C'est simple. Ah!
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Maître Marc Bellemare est avec nous comme à chaque lundi. Maître Bellemare qui nous a préparé un quiz ce soir. On est à quoi? À deux jours de la Saint-Valentin. Là. La Saint-Valentin, c'était quoi? C'était samedi ou vendredi? C'était-tu? Ouais, c'était samedi, hein, la Saint-Valentin.
Samedi soir, effectivement. Donc,
j'ai pas eu de chocolat, fait, je sais pas c'était quand exactement. Personne m'a acheté de chocolat, personne m'a acheté de fleurs.
Mais il paraît que le chocolat, là, c'est pas une bonne idée parce que ça remplace le sexe.
Ah oui? OK.
Bien, il paraît que le chocolat, si tu donnes ça, ben c'est un downer.
Okay.
Et non pas un stimulant. Alors, c'est pas une bonne idée d'acheter du chocolat à ta blonde.
Ben, c'est ça.
Ben, j'ai lu ça en quelque part, là, probablement sur les réseaux sociaux.
Merci de vos conseils, Maître Bellemare. Parlez-moi de votre quiz. Faites-moi passer votre quiz.
Oui, alors ça vient de Éducalois, c'est un quiz Saint-Valentin. Alors, après une promenade romantique, votre partenaire fait sa grande demande. Vous dites oui. Il te demande en mariage, sans hésiter, mais le lendemain, vous commencez à douter. Avez-vous maintenant une obligation légale de vous marier?
Non. On peut toujours se sauver.
Non, c'est vrai. Mais même si tu dis oui, c'est pas comme un contrat où tu dis « je vais te donner 10 000 $ ». Alors, non. Si vous acceptez une demande en mariage, c'est une belle preuve d'amour, mais vous n'avez pas d'obligation légale. Vous avez simplement démontré votre intention de vous marier. Tant que vous n'avez pas célébré votre mariage, votre état civil ne change pas. Ainsi, pas de panique, vous pouvez changer d'idée à tout moment avant votre mariage sans conséquences légales. Mais moi, je connais des gens qui ont changé d'avis la veille. Hein?
La veille?
Oui, la veille. Hey, ça ne me tente plus. Ça a été barré, il n'y a pas eu de mariage.
Mais il y a de l'argent en jeu dans ce temps-là. Là.
C'est ça. Et il y a une autre question qui porte sur la bague. Je ne sais pas si toi, tu as déjà donné une bague à quelqu'un.
Non, j'en ai jamais donné encore.
En ce jour de Saint-Valentin, vous êtes en colère contre votre ex qui a mis fin à votre relation avant le jour de votre mariage.
Ouais.
Pour soulager votre cœur brisé, pourriez-vous reprendre la bague de fiançailles?
Non, quand c'est donné, c'est donné.
Une bague, là. Puis là, en but d'un mariage en 6 mois, la bague a coûté 5 000 $.
Ouais. Non,
tu dois la reprendre si elle brise sa promesse.
Je pense que. Moi, ça, c'est ma réponse à moi officielle, mais je ne suis pas avocat. Je pense qu'on peut le demander, mais si elle refuse, donner ses données, là.
Bon, c'est ça. Elle n'était pas pire. Quand même, un vrai avocat, franchement, M. Marceau.
Ouais, je vais vous dire, franchement, que c'est plus.
Non,
mais...
c'est ça. Les bagues offertes, la réponse, c'est celle-ci. Les bagues offertes lors des fiançailles sont des dons et ne dépendent pas de la célébration du mariage. Ainsi, vous ne pouvez pas demander à votre ex de vous prendre la bague ou de vous rembourser sa valeur, à moins qu'elle. Ou il soit d'accord. Ça vaut aussi pour le robot aspirateur et les cadeaux de Noël. Tu as donné un beau cadeau de Noël, tu ne peux pas reprendre ta balayeuse parce que le 26 décembre, elle dit « je t'aime plus ».
Ah oui, OK, bon.
Okay. Alors, cadeau, c'est pas « donne de donne », c'est « donne donne ».
C'est exact. Mais malgré que j'ai connu un gars, moi, il a donné 4 fois la même bague de fiançailles à 4 filles différentes. Là.
Ouais, c'est ça.
On a tout un chum de même, là. Ouais.
Ouais. Autre question. Vous découvrez avec stupéfaction quelques semaines après votre mariage que votre partenaire n'a pas encore divorcé de son précédent mariage.
Oh.
Pouvez-vous demander l'annulation du mariage?
Oui.
Oui, pourquoi? Ouais.
Parce que c'est un mensonge.
Ben, pas juste ça, c'est parce que c'est la bigamie, hein. Au Canada, la loi interdit la bigamie, c'est-à-dire d'être marié à 2 personnes. Et la polygamie, le fait d'être marié à plus de 2 personnes. Une personne qui pratique la bigamie ou la polygamie ou une personne qui célèbre un mariage dans ce contexte peut être condamnée à un maximum de 5 ans de prison. Au Québec, être libre est une condition pour se marier. Votre mariage peut donc être annulé si votre partenaire était déjà marié ou en union civile au moment du mariage.
OK. Ah, ben ça, c'est quelque chose que je ne savais pas.
Ben oui, ça peut. Mais tu sais que j'ai déjà eu une cause, moi, où il y avait trois veuves. Le gars est mort.
Oui.
Il y a trois femmes qui ont réclamé une rente de conjoint survivant.
Non.
Il y avait la femme avec qui il avait été marié, non divorcé. Il y avait la femme avec qui il vivait depuis une douzaine d'années, puis il y avait la maîtresse. Et finalement, c'est la femme mariée qui a eu la rente que j'avais représentée. Mais je te dis, là, alors le juge avait décidé où allait la rente de conjoint survivant parmi ces trois demanderesses.
Mesdames et messieurs, faites vos papiers devant un notaire. C'est très important de mettre ça à jour le plus souvent possible. On va se laisser là-dessus, Maître Bellemare, si vous le désirez bien. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Merci beaucoup de m'avoir appris que la bigamie n'était pas légale au Canada. Ça va peut-être m'éviter plein de problèmes. À chaque fois que je vous parle, ça me coûte moins cher.
Assure-toi qu'elle n'est pas déjà mariée avant. Là.
C'est ça. Dossier de SAC, d'IVAC, de CNSST, c'est bellemoreavocat.ca. Je vous souhaite de passer une belle semaine. On se reparle lundi prochain.
Merci. Bonne semaine, tout le monde. Salut.
Bye-bye.
Marceau, le soir. Grosse nouvelle croustillante avec le retour de l'irrésistible poulet frit Saint-Hubert pour un temps limité. Trois tendres morceaux de poulet juteux et croustillants, servis avec les accompagnements et une sauce miel et piri-piri.
À Québec, un Ford, ça se mange chez Desjardins Ford.
C'est le mois du camion chez Desjardins Autocollection. En février, offrez-vous le Ford F-150 2025 en financement 0% jusqu'à 72 mois. Aussi, obtenez le Maverick 2026 à partir de 235 $ aux deux semaines en location. En février, le mois du camion, c'est chez Desjardins Autocollection.
À Québec, un Ford, ça se mange chez Desjardins Ford.
Chez Scoop Vision, on a l'œil pour le style. Vous avez une chose à apporter, votre prescription. Après, on s'occupe du reste. Des lunettes au prix du web, mais avec du service en boutique. C'est le meilleur des deux mondes. Scoop Vision, le style commence par vos yeux.
Attention, c'est le moment d'économiser gros chez Chaussures Filion. Profitez de marchandises déjà réduites jusqu'à 50% et obtenez 15% de rabais additionnel à la caisse. Passez-nous voir à Neuchâtel, dans le Vieux-Québec, à Limoilou ou à Lévis. Chaussuresfilion.ca.
Le podcast hors série est de retour pour une deuxième saison. Les animateurs de Boulevard prennent le micro pour des entrevues vraies et approfondies. Des conversations qu'on n'a pas le temps d'avoir en ondes, mais qui méritent d'être entendues.
En ondes les lundis à 19h sur Boulevard 102.1
et dès le lendemain sur les plateformes. Le podcast hors série présenté par Chaloux, le paradis de la bière à Québec.
Plus de 1000 sortes de bières.
De la micro d'exception à la bière de soif parfaite. Chaloux, Beauport, Saint-Émile et Sainte-Catherine.
Chez Desjardins, on croit que le REER et le CELI sont des sujets passionnants. Mais c'est peut-être pas le cas pour David ici. C'est donc l'heure de réveiller votre intérêt pour le REER et le CELI.
De quoi on parle?
De cotiser un REER et d'utiliser le remboursement d'impôt pour alimenter le CELI à l'abri de l'impôt.
Ça réveille du bon pied.
Cotisez en ligne dès maintenant sur desjardins.com/REER-CELI. Certaines conditions et modalités s'appliquent.
Chaque jour de la semaine, Denis Gravel et Yannick Marceau traitent des dossiers chauds du jour. Puis qui l'eût cru, ils pensent pas la même affaire.
L'attente est enfin terminée. Les concessionnaires BRP Skidoo, Adrenaline Sport Québec, Adrenaline Sport Lévis, Dion Sport et Bernier Sport vous invitent à découvrir les tout nouveaux modèles Skidoo 2027. Ça se passe le 19 février à la tournée du printemps Skidoo au centre de foire Exposité. Venez voir votre futur motoneige de près. Comparez les modèles, obtenez des réponses à vos questions sur les nouveautés Skidoo et Lynx et précommandez votre motoneige pour l'an prochain. Le 19 février au centre de foire Exposité. Entrée et stationnement gratuit.
Maman, papa, à la relâche, on va glisser à Tewksbury. C'est les plus hautes et les plus longues pistes au Québec. Accessible pour toute la famille. En plus, c'est une entreprise familiale d'ici. Pour glisser, c'est Tewksbury.
Dino vous offre ce qu'il y a de mieux pour votre animal de compagnie. Profitez d'un rabais de 50% à l'achat d'un petit sac de nourriture Royal Canin pour chien ou chat. Et des rabais sur de nombreux produits spécialisés bucco-dentaires. Visitez dino.ca pour voir tous nos autres spéciaux.
Propriétaire d'une maison avec une fosse septique? Faites confiance à Sanivac. Notre équipe vide et entretient les fosses septiques dans ta région avec un service fiable, rapide et professionnel depuis 1961. Sanivac s'occupe de tout, ta vidange et même le rappel pour votre prochain entretien dans 2 ans. Service d'urgence 24/7 et réservation dans la même semaine. Pour un service simple, propre et efficace, choisis Sanivac, une entreprise familiale d'ici au service de vos fosses septiques depuis 65 ans. Choisis Sanivac. Chez Volkswagen Saint-Nicolas, c'est le moment parfait de partir en Taos. Un VUS compact, moderne, spacieux, confortable et idéal pour affronter l'hiver avec style. En ce moment, profitez du Volkswagen Taos 2026 à partir de seulement $110,65 par semaine sur 51 mois à 2,99%. Venez l'essayer dès aujourd'hui et découvrez pourquoi le Taos est l'un des choix préférés des conducteurs d'ici. Volkswagen Saint-Nicolas, votre prochain VUS vous attend.
Boulevard.
Telle des athlètes olympiques, l'équipe de Boulevard 102.1 se dépasse à tous les jours pour vous offrir du contenu de haute voltige sur ce qui se passe ici et ailleurs.
A gold medal today.
Le slalom d'opinion de Marceau. Les top lucarnes de